Bruxelles est-elle une capitale accueillante pour les étudiants? C'est la question sur laquelle se sont penchés les invités de ce débat dans le cadre d'un partenariat entre le journal Le Soir et les universités bruxelloises. Le débat est animé par Véronique Lamka.
Bonsoir à tous, bienvenue au premier débat ULB de l'année. Cette soirée marque aussi le lancement d'un nouveau partenariat entre Le Soir et l'ULB. Nous avons en effet décidé de travailler sur la thématique choisie par l'ULB cette année, à savoir Bruxelles, capitale étudiante, et donc d'organiser différents débats autour de cette thématique. Nous en organiserons donc d'autres au cours de l'année, n'est-ce pas, Monsieur Anglais? Et donc, le débat de ce soir est le premier d'une série. J'accueille avec grand plaisir 5 invités. Je vais commencer par M. Vervoort, ministre-président de la région bruxelloise, M. Van Engel, ministre au gouvernement bruxellois, M. Angler, recteur de l'ULB, Mme Poels de la VUB, et M. Maury, qui est le nouveau président de la FEF. Donc voilà. Nous allons débattre de différents thèmes qui peuvent s'inscrire dans le slogan ou la thématique Bruxelles capitale étudiante. Je vais vous donner quelques petits éléments pratiques avant de donner la parole aux différents intervenants. Le débat aura lieu en 2 parties. Donc dans un premier temps, le débat se fera essentiellement sur la scène. Ensuite, je vous donnerai la parole pour que vous puissiez poser vos questions et que nos invités puissent y répondre. Si vous souhaitez tweeter les meilleurs moments de la soirée, il y a un hashtag qui est débat ULB, sans surprise. Et donc voilà. Nous allons commencer par une question toute simple au nouveau président de la FEF. Je voulais vous demander si être étudiant à Bruxelles, c'est une chance ou une galère?
Bien, d'abord, merci de m'avoir invité. Comme vous le savez, pour la Fédération des étudiants francophones, l'enseignement est un investissement fondamental de notre société. Et dans ce cadre-là, Bruxelles étant la première ville étudiante du pays, le débat de ce soir promet d'être intéressant. Alors, pour mettre un peu en contexte rapidement, Bruxelles, c'est quoi? C'est 90 000 étudiants sur la région bruxelloise qui sont tant francophones que néerlandophones, ce qui fait aussi une spécificité à Bruxelles. Alors, si être étudiant à Bruxelles revient à en fait être un parcours du combattant ou une chance, il est certain qu'en certains aspects, c'est un parcours du combattant, en tout cas pour la Fédération des étudiants francophones. Il y a bien évidemment un premier aspect qui est celui du coût de la vie pour un étudiant, et donc on chiffre cela toujours entre 10 000 à 12 000 euros par an. Et je pense que ce qui est intéressant, en tout cas pour le débat de ce soir, c'est les aspects qui portent sur les coûts indirects qui sont les plus lourds dans le budget d'un étudiant, à savoir le logement, le transport. Et là, bien évidemment, Bruxelles a ses spécificités qui font que cela diverge d'autres villes étudiantes dans le pays. Maintenant, il y a aussi un contexte qui est un peu plus global sous lequel les étudiants sont, c'est à savoir les différents décrets pour lesquels les étudiants sont concernés aujourd'hui. Le plus connu d'entre eux étant le décret paysage. Voilà, donc il y aura toujours un peu un aspect qui reliera l'ensemble des étudiants de la Fédération Wallonie-Bruxelles et certaines spécificités pour les étudiants bruxellois, comme je viens de le citer, par exemple le logement et le transport.
Vous trouvez qu'il n'y a pas assez d'aide en matière de logement et de transport à Bruxelles pour les étudiants?
Alors, quelques chiffres.
On va demander aux deux ministres.
Mais quelques chiffres, il y a pour par exemple au niveau du transport, 54% des étudiants mettent moins de 30 minutes pour se rendre de leur lieu de résidence à leur établissement. Maintenant, un point qui est intéressant dans ces chiffres, c'est que pour la plupart des étudiants qui viennent en dehors de Bruxelles, d'autres régions, ils viennent pour la plupart en voiture. Et donc déjà à ce niveau-là, c'est un premier sujet qui peut être lancé, peut-être de certaines solutions qui peuvent être apportées pour tous ces étudiants qui viennent en voiture. Alors je parle bien évidemment pas de parc, de place de parking ou peu importe, je parlerai peut-être de quelque chose comme le RER que l'on attend depuis un certain moment, voilà. Mais sinon, le transport en commun qui est le plus pris, c'est ceux mis à disposition par la STIB, qui ont beaucoup de succès. D'ailleurs, l'abonnement de la STIB qui a baissé pour les étudiants l'année dernière. Mais par rapport à ça, il reste toujours un point qui est celui de la limitation de l'âge à 25 ans, alors que certains étudiants actuellement ont plus de 25 ans.
Une réponse du gouvernement.
C'est un excellent résumé.
Vous attendez le RER aussi, peut-être.
Voilà, j'allais le dire. Le seul vœu que je forme, évidemment, c'est que notre ami soit diplômé avant que le RER n'arrive. Sans ça, il risque d'avoir de longues études devant lui. Donc ça, c'est la partie ironique. Non, aujourd'hui, on a une dynamique, en tout cas, que le Premier ministre souhaite lancer au niveau du pacte concernant les grands investissements. La mobilité faisant partie évidemment des priorités, pas uniquement de la région bruxelloise, mais de l'ensemble des niveaux de pouvoir. Je sais que le RER fait partie du paquet qui sera mis, pour autant qu'on arrive à un accord, ça c'est pas encore gagné, en comité de concertation, mais le RER sera mis sur la table, comme nous allons mettre le métro, le chantier du métro sur la table, de ces investissements qui seraient d'une certaine manière immunisés des foudres européennes, à savoir qu'ils ne seraient pas, ils n'impacteraient pas la dette des États, enfin de la Belgique. Tout le monde le sait, c'est un des gros problèmes aujourd'hui, c'est l'incapacité dans laquelle on se trouve de lancer de grands investissements sous peine de se faire retoquer par la Commission européenne. Par ailleurs, oui, l'enjeu à Bruxelles, ça a été dit, 90 000 étudiants, première ville étudiante du pays, nombreux établissements d'enseignement supérieur, universitaires, pas que ça, c'est aussi des hôpitaux, des académies, c'est de la recherche, de la formation, enfin c'est ce panel qui pour nous est évidemment important parce que c'est aussi de l'emploi, direct, indirect, donc c'est très très important la place de l'enseignement dans notre région et ça implique évidemment une prise en compte par le pouvoir régional de cette réalité-là, et d'où la mise en place, pour la première fois, d'une compétence étudiant dans le label affaires étudiantes dans les compétences du gouvernement, étant entendu que nous voulons évidemment être partenaires dans un certain nombre de projets aux côtés des universités.
On y reviendra peut-être après. Voilà. Juste avant, je vais quand même demander à M. Van Engel s'il est imaginable que la STIP fasse encore des efforts pour les étudiants au niveau du prix des transports.
Je crois que la STIP fait un effort, enfin le gouvernement fait un effort, parce que c'est le gouvernement qui compense, le contribuable bruxellois donc, hein, qui compense la partie qui nous permet de maintenir à prix raisonnable, pour ne pas dire bas, l'abonnement étudiant en région bruxelloise. Je crois que le transport en général, ce qui m'interpelle, ce que je ne savais pas, et ce que je viens d'apprendre, qu'il y a tant d'étudiants qui viennent de l'extérieur en voiture, hein. Ça nous interpelle. Là, je dois vous dire, nous avons le RER, il faut aller au-delà. Hein? Donc, on en a déjà parlé à multiples reprises. Nous devons absolument convaincre l'ensemble du pays de voir Bruxelles comme une région métropolitaine qui va au-delà des petites chamailleries qui tiennent compte que des frontières administratives. Il y a le RER, mais il y a aussi tout la méthodologie de rentrer dans Bruxelles entre les villes périphériques et la région bruxelloise urbaine telle qu'elle. Je cite souvent l'exemple, nous avons les grandes chaussées, chaussée de Ninov, chaussée de Wavre, chaussée de Louvain, et ainsi de suite, qui au fond sont des axes sur lesquels avant circulait Dumburentram, le tram vicinal, qu'on a dû abandonner parce que tout le monde s'est mis à se déplacer en voiture. Et maintenant, ils sont tellement nombreux à se déplacer en voiture qu'ils n'avancent plus sur ces grands axes. Et donc, sur ces axes-là, on doit créer à nouveau du transport en public. Et il y en a certains qui le disent, et je crois qu'ils ont raison. Quand nous faisons nos lignes de métro, ce que nous sommes en train de faire à gros frais, vers le nord, vers le sud, nous devrions au fond, pouvoir sortir des limites de notre région et essayer de prolonger cela. Il y a un deuxième élément qui me perturbe beaucoup, c'est que du côté SNCB, on ne s'investit pas suffisamment dans les parkings autour des gares aux alentours de Bruxelles. Nous, on parle beaucoup de parking de dissuasion, mais au fond, les meilleurs parkings de dissuasion, ce sont ceux qu'on crée autour des petites gares aux alentours ou ceux qui viennent nous visiter ou qui viennent travailler chez nous pourraient laisser leur voiture pour alors continuer la route.
Notamment les étudiants qui viennent en voiture.
Oui, tout à fait.
Madame Paul.
C'est notamment ce qui se passe dans les grandes villes américaines. Il y a toujours de la desserte par le train. Et les jeunes se ramènent soit à bicyclette, soit à... en voiture, apparemment. Ce que je voulais rajouter, c'est effectivement, je sais très bien qu'il y a beaucoup de jeunes qui se déplacent en voiture, ce qui m'a toujours interpellée aussi quand je vois le garage de la VUB qui est plein de voitures. Au départ, je pensais que c'était les entreprises, mais non, en fait, c'est les étudiants. Mais ce que je crois aussi, ce qu'il faut faire au-delà du transport public, c'est rendre Bruxelles cyclable. Je crois que des étudiants, et surtout aussi, je crois qu'on va parler des différents campus. Hier, on s'est déplacé à bicyclette. En tout cas, certains d'entre nous se sont déplacés à bicyclette entre la VUB et l'ULB. Mais je crois que ça arrangerait beaucoup de choses que aussi à partir de Yette pour revenir en ville. Mais parce qu'on va attendre encore longtemps, je pense, pour les trams. Mais je crois avoir déjà les bicyclettes, ce serait déjà quelque chose pour une génération qui est quand même, je pense, aussi intéressée écologiquement à un transport durable. Donc, si ça peut se rajouter.
Un message au gouvernement. Monsieur Anglaire, on discute depuis 5-10 minutes et directement, on parle de mobilité. Vous, en tant que recteur de l'Université libre de Bruxelles, vous ressentez aussi au quotidien le fait que la mobilité est un problème majeur?
Oui, la mobilité est un problème majeur, mais pas seulement pour les étudiants, hein, c'est un problème majeur pour tous les Bruxellois. Ça, je pense que aujourd'hui, tout le monde en est conscient. Moi qui viens en train, je peux dire que les parkings de dissuasion autour des gares sont nettement insuffisants et sont probablement un facteur qui pourrait améliorer la pression, au fond, sur les personnes qui viennent de l'extérieur. Et on va y revenir tout de suite. Les étudiants sont nombreux. Je vais vous donner 2-3 chiffres qui sont quand même impressionnants de ce point de vue-là. Seraient plus tentés de laisser leur voiture à l'extérieur et de venir à Bruxelles avec les transports en commun, ce qui soulagerait évidemment beaucoup d'aspects de mobilité à l'intérieur de la capitale. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que sur les 90 000 étudiants que compte Bruxelles, 63% en fait ne sont pas des Bruxellois. Donc l'attractivité de notre ville, et on y reviendra peut-être tantôt quand on parlera de l'aspect économique que ça représente, mais l'attractivité de notre ville comme ville étudiante est très forte, ce qui est très bien. Mais qui veut dire évidemment que le problème de la mobilité est important, on en a beaucoup parlé. Ce qu'on n'a pas beaucoup évoqué jusque maintenant, c'est le problème du logement étudiant, parce que ça, c'est l'autre face du fait d'avoir une très forte entrée de l'extérieur, c'est qu'évidemment, pour une bonne partie d'entre eux, il n'est pas question de rentrer tous les jours.
J'allais redonner donc la parole à M. Maurice sur le logement, justement, mais continuez.
On a un déficit de logement étudiant à Bruxelles. L'ULB a lancé en 2012 un grand plan pour multiplier par 4 notre offre de logement. Donc on est à peu près au milieu du guet. On est passé de 1500 à près de 3000. On devrait aujourd'hui être autour de 3000 chambres qui sont offertes de manière mixte. Et l'objectif est d'arriver à 4500 en 2018. Je pense que c'est en bonne voie. Et bien entendu, on a d'autres projets dans lesquels on y reviendra, il y a du logement. Mais c'est évidemment l'autre aspect qui pèse très lourd dans le portefeuille ou dans le porte-monnaie des étudiants, à côté de la mobilité, c'est évidemment le logement. Et si l'offre est faible, et bien évidemment, les loyers sont élevés.
Monsieur Maurice, je vais vous laisser expliquer. Le problème du logement, c'est qu'il est cher, c'est qu'il n'y en a pas assez, c'est qu'il n'est pas bien situé.
Donc par rapport au logement à Bruxelles, à nouveau un chiffre, c'est que sur les 90 000 étudiants, il y en a 35 000 étudiants qui bénéficient d'un logement à Bruxelles. Alors par rapport à ça, le logement, ça par contre, c'est un parcours du combattant, surtout pour les étudiants qui sont en haute école et en école supérieure des arts. Pourquoi ? Tout simplement parce que, comme monsieur le recteur vient de le préciser, les établissements universitaires mettent bien souvent à disposition des logements propres à l'établissement, ce qui n'est pas le cas des hautes écoles et des écoles supérieures des arts. Alors par rapport à ça, à nouveau d'après l'ADT, 42% des étudiants ont des difficultés à trouver un logement, et ces difficultés sont liées à quoi? Justement à un prix trop élevé, à une durée inappropriée du contrat de bail, à des pratiques même discriminatoires, et ainsi de suite, et ainsi de suite.
Madame Poel, c'est également un problème que vous ressentez au quotidien à l'UAVUB?
Je crois que tout le monde reconnaît le problème des cotes. Je crois qu'en total, il y a 12... En fait, on n'arrive déjà pas très bien à les compter au départ. Et donc, il y a l'offre effectivement offerte par les universités ou les établissements même. Il y a l'offre privée aussi, qu'on essaie aussi de contrôler, mais où il y a... Bon, où les étudiants apparemment réagissent de façon un peu double, que s'il y a plus de contrôle, ils pensent que le prix va peut-être augmenter. En même temps, effectivement, parfois la qualité n'est pas assurée non plus. Donc je crois que le marché privé procure environ 70% des demandes. Et donc nous, de notre côté... Tout effort gardé, 30%. Le prix est de 460 euros en moyenne. Ce qui est effectivement, pour certains, j'ai aussi vérifié les chiffres, 60% trouvent ça plus ou moins abordable, mais naturellement, les 30 et des autres trouvent ça pas possible, ce qui est sûrement leur réalité. Donc, je crois effectivement qu'il faut multiplier. Je crois qu'on a l'intention, tout le monde prend ses responsabilités, mais il y aura toujours une pénurie, même si on multiplie les efforts. On est en train de construire sur le campus de la Plaine, à la VUB, 600 cotes qui vont se rajouter. On voit le développement d'acteurs privés comme Upcot qui était directement sold out, c'est ce que j'ai compris. En tout cas, c'est ce que peut-être vrai ou pas vrai. Et puis, la prochaine étape qui, j'espère, se fera vite, c'est les projets des casernes, effectivement.
On y reviendra à la fin du débat. Messieurs du gouvernement, est-ce que vous pouvez par ailleurs faire quelque chose pour peut-être veiller au prix ou aider les étudiants à trouver un logement privé?
Du côté néerlandophone, il existe quelque chose qui s'appelle BRIC et qui s'occupe de cela, qui met sur le marché, enfin qui guide les étudiants à trouver leurs cotes, qu'ils soient des cotes publiques ou d'institutions publiques ou privées. Apparemment, nous restons toujours avec une petite offre qui n'est pas remplie en début d'année. Et donc, c'est peut-être un peu paradoxal. Hein, donc, nous essayons d'aider le plus que possible. La meilleure des choses qui puisse se faire, c'est qu'il y ait une augmentation de l'offre. Il y a des investisseurs qui se mettent à construire, des investisseurs privés, qui se mettent à se lancer là-dedans de plus en plus. Et ça fonctionne, j'ai l'impression, assez bien. Il faut se dire, à l'encontre de ce qui se passe dans d'autres villes universitaires du pays, chez nous, naturellement, ces logements étudiants se perdent un peu dans la grande offre du logement bruxellois qui est la nôtre. C'est tout comme les 90 000 étudiants qui pourraient faire une commune à eux seuls dans cette ville, ne sont pas aussi visibles que les étudiants à Leuven ou à Liège. Et donc, voilà.
Monsieur Vervaux.
Je pense qu'on a initié, fin de l'année législature, et puis depuis cette législature-ci, une collaboration plus active avec les universités. On a participé à la création de l'Agence immobilière sociale étudiante, donc sous le modèle de l'AIS classique, qui permet d'assurer à la fois une stabilité du prix, mais aussi très important, une qualité du logement. Ceux qui connaissaient le mécanisme, ça garantit le paiement du loyer dans le chef du propriétaire. C'est sûr qu'il doit accepter de le mettre en location à un prix plus bas, mais en même temps, il a la certitude de bénéficier de son loyer. Dans les travaux législatifs qui sont en cours, à la fois sur la réforme de la loi sur le bail, puisque vous le savez, le bail est devenu une compétence régionale. Je pense que la ministre Frémaux est attentive à cette question-là. C'est d'introduire le concept de bail étudiant, donc ce qui permet de répondre évidemment à la question, enfin, un problème qui a été soulevé sur la durée, éventuellement la garantie locative, enfin de faire en sorte qu'on soit dans un contexte autre et qui prenne en compte la réalité de ce type de contrat. C'est sûr qu'on ne signe pas un bail étudiant, on ne fait pas un bail de 9 ans. Mmh. Donc il y a des spécificités qui doivent être prises en compte. C'est au niveau du règlement général d'urbanisme d'introduire le concept de logement étudiant. Ce qui n'est pas simple, parce qu'un logement étudiant peut l'être aujourd'hui et ne plus l'être demain. Donc il faut tenir compte de ça. Mais ce qui permet de prendre en compte la réalité de confort, les normes minimales, enfin tout ce que la législation prévoit, mais qui n'est pas nécessairement adapté au logement étudiant aujourd'hui, puisqu'il n'existe pas en tant que tel. Il n'a pas d'existence légale, le bail étudiant. Et bon, on l'a dit, c'est de participer évidemment à des opérations immobilières comme celles projetées sur les casernes.
Monsieur Anglais, vous souhaitiez...
Oui, je voulais attirer l'attention sur 2-3 points qui complètent les stratégies qu'on peut avoir autour du logement. D'abord, en miroir du BRIC, nous avons du côté francophone le PLE, qui est donc une plateforme informatique sur laquelle les loueurs peuvent déposer les offres de logement, qui a été construite au niveau du pôle, donc pour l'ensemble, donc le pôle qui est cette structure de l'ARES du côté francophone, qui regroupe tous les acteurs de l'enseignement supérieur et donc qui est aussi bien accessible aux étudiants des arts ou de la promotion sociale que ceux des hautes écoles ou des universités, qui est un beau projet pour améliorer le contact. Alors à côté de ça, il y a deux autres dimensions sur lesquelles je voudrais attirer l'attention. C'est d'une part la politique sociale. Il faut rappeler que les universités ont des services sociaux qui peuvent donner un coup de main aux étudiants qui correspondent aux 40% pour lesquels le logement est trop cher. Et parmi les différentes formes d'aide que l'on peut fournir et qu'on fournit, il peut y avoir une aide pour payer le logement. Le troisième aspect, on a évoqué les acteurs privés, c'est d'avoir une politique proactive avec ces acteurs privés pour négocier des prix plus bas pour une partie de leurs loyers, c'est-à-dire offrir un certain nombre de loyers à un tarif étudiant en échange d'un engagement de l'université à les aider à ce que leur logement soit rempli. Donc il y a des stratégies de négociation et donc les choses ne sont pas aussi tranchées que soit le logement universitaire, soit le logement privé avec lequel il n'y aurait pas de dialogue ou de négociation possible. Et donc il y a, me semble-t-il, un panel de stratégies que l'on peut développer, mais évidemment on sera tous d'accord pour dire que la meilleure stratégie ce serait d'avoir une offre qui soit suffisamment élevée que pour tirer les loyers vers le bas. Et ça, je pense que ce n'est pas propre aux étudiants, mais propre à la région bruxelloise. Et on revient au problème de la communauté urbaine, au fait que le sol, le terrain est devenu à Bruxelles une denrée rare, donc chère.
Monsieur Maury ?
Ben, je pense qu'un aspect qui n'a peut-être pas été abordé, c'est justement parce que vous venez de citer la réforme qui est mise en place par la ministre Frémaux. Effectivement, au niveau du contrat bail type étudiant, ça a été salué par toutes les organisations étudiantes, que c'est une nécessité et que cela permet en tout cas de faire avancer la législation sur ce point pour les étudiants. Maintenant, il y a un point qui nous a fortement interpellés durant les négociations, c'est celle du label étudiant. Alors, en quel sens est-ce que le label étudiant nous a interpellés? Au-delà de la discussion, si ça doit porter sur des points ou sur des étoiles, ça a été de dire à un moment donné que le label étudiant en fait est un gage de qualité supplémentaire supérieur aux normes minimales qui seraient mises en place dans le cas d'un bail contrat de bail type. Et par rapport à ça, je vois d'un mauvais œil le fait de voir survenir sur Bruxelles des cotes, des logements étudiants, 2 étoiles, 3 étoiles, 4 étoiles. Je pense que ce serait aussi, premièrement, une erreur juridique, mais également une erreur d'appréciation discriminer un traitement entre un étudiant bénéficiant d'un cote labellisé et un étudiant ne bénéficiant pas d'un cote labellisé.
On va laisser répondre les intéressés. Je vois M. Vervoort qui fronce les sourcils.
Non, j'écoute avec grand intérêt ce qui est dit.
Le label, les étoiles, c'est pas bien?
Non, c'est pas ma tasse de thé, donc je veux dire, les étoiles...
Il y a un espace de négociation.
Oui, mais...
Profitez-en, M. Maury, à la pause.
Tout simplement parce que les lois du marché étant ce qu'elles sont, Vous savez, ceux qui savent se payer, il en a un code 3 ou 4 étoiles, ils sont dans le marché locatif privatif, la question ne se pose même pas. Je veux dire, voilà, pour moi, le principe d'égalité doit prévaloir. Et donc, ce principe-là, c'est que ben, pour un prix donné, on a un standard de qualité. Après, si on a un propriétaire plus sympa, ça existe aussi, ça. Hein, je veux dire, ils ne sont pas tous mauvais. Ou une propriétaire avenante et maternante, c'est sûr qu'on ne va pas y rajouter une étoile supplémentaire. Donc ça fait partie des choses. J'étais étudiant aussi, donc il y a de tout. Mais il y a aussi la location multiple. Enfin, moi, j'ai connu des ça se fait aussi. Hein, à deux ou à trois, on partage un loyer. Enfin, tout ça existe. Donc, la débrouille, elle est organisée. Et les propriétaires qui ont des biens autour et alentour des campus, croyez-moi, ils ont aussi. On se passe les appartements d'étudiants en étudiants. Tout ça fonctionne aussi. Donc, il ne faut pas croire. Enfin, c'est pas pour ça qu'il faut. Notre rôle à nous, c'est d'assurer une certaine régulation, faire en sorte qu'il n'y ait pas d'abus, que les loyers ne soient pas. Voilà, ça c'est le rôle, et d'amener une offre supplémentaire. Mais vous l'avez dit, on retombe sur les mots structurants de notre région. C'est que sur 165 km², avec un boom démographique que nous connaissons, 2% d'augmentation de la population par an, ça crée une pression sur le logement. Ce qui veut dire que le logement est devenu une fonction forte à Bruxelles et que ça crée une tension sur les prix, singulièrement les prix locatifs. Ça, c'est une évidence. Alors, nous développons, au travers de nos politiques dans les zones dites prioritaires, la production de logements à prix conventionné, logements sociaux assimilés, pour faire en sorte qu'on fasse un peu baisser la pression. Mais c'est sûr que le logement étudiant n'échappe pas aux maux que connaît notre région en général.
Merci. Monsieur Anglaire, tout à l'heure j'ai interrompu Monsieur Vervoort qui expliquait à quel point la fonction universitaire était importante pour la région. Et pourtant, on a parfois l'impression que ce n'est pas nécessairement ce qu'on met le plus en avant quand on promeut Bruxelles. Quel est votre sentiment par rapport à ça? Est-ce qu'on dit assez en Belgique et à l'étranger que Bruxelles est une ville étudiante et la première ville étudiante du pays?
Écoutez, je pense que la difficulté, c'est que Bruxelles est évidemment une très grande ville avec de multiples atouts qui fait que ces 90 000 étudiants n'ont pas la même visibilité qu'elles pourraient l'avoir à Leuven ou à Gand, qui est la deuxième ville étudiante avec 60 000 étudiants, si je me souviens, de Belgique, et où le poids ou la proportion de la population est plus forte. Donc, il me semble qu'il faut regarder l'apport de cette ville d'enseignement supérieur, parce que quand on dit 90 000 étudiants, on est bien d'accord, on ne prend pas les écoles primaires et secondaires dans ce compte, hein, on est ici uniquement dans le supérieur. C'est donc un atout très fort pour la ville, et l'apport que ça représente, donc ça j'avais deux, trois données qui sont très intéressantes, c'est que d'abord, évidemment, c'est 90 000 étudiants, plus le personnel, plus les hôpitaux universitaires, on y reviendra peut-être, qui sont aussi une partie du tissu académique de Bruxelles, représentent un grand nombre de personnes qui vivent, consomment, dépensent, et donc participent à l'équilibre économique de la région. Au-delà de ça, ces fonctions, et ça c'est particulièrement vrai pour les universités, apportent un dynamisme à la région. Donc il y a un rapport de la LSI qui est sorti en juillet de cette année-ci qui étudie l'apport en PIB pour les régions du fait d'avoir des universités. C'est assez important, ça représente 4 à 5 points de PIB pour les régions qui développent une politique universitaire. Donc nous sommes certainement, avec les universités, un acteur économique important. Alors de là à dire, est-ce que la région en donne une visibilité extérieure? On a dit que beaucoup d'étudiants viennent de l'extérieur, donc nous sommes bien perçus comme une ville étudiante. Je crois que c'est un mixte que la région peut faire, parce que Bruxelles est une ville étudiante et doit être vue comme telle, mais elle est aussi une ville étudiante parce qu'elle n'est pas que ça. Et donc, je ne vois pas d'opposition entre le fait de promouvoir Bruxelles, ville de culture, Bruxelles, ville cosmopolite, Bruxelles, ville multilingue, ville ouverte, et le fait qu'elle soit une ville étudiante. Donc, je sens moins ça comme un enjeu critique. Par contre, ce qui est très important et qui reste aujourd'hui, me semble-t-il, une difficulté, c'est de réfléchir à la façon dont Bruxelles accueille ces étudiants qui viennent de l'extérieur. Et je pense principalement aux étudiants internationaux. Et ça, c'est un vrai enjeu pour lequel je pense que ni nous, comme université, ni la région aujourd'hui, n'avons une politique mûre et entièrement satisfaisante par rapport à l'étudiant qui vient de Suède, d'Espagne ou du Royaume-Uni et qui souhaite venir étudier ici. Est-ce qu'on ne peut pas améliorer la façon dont on lui facilite les procédures, l'accès, l'aide au logement, aux papiers? Et donc ça, je pense que là, il y a un créneau pour une amélioration politique ensemble. Je pense que nous sommes tout autant responsables que les autorités publiques pour améliorer cet aspect-là qui est très important.
Est-ce que je peux juste donner la parole à Mme Powell-Savant pour voir si elle est du même avis, et puis je vous donne la parole, M. Van Engen.
En fait, je crois que le fait que les étudiants ne restent pas ici, qu'ils en fait, commute, comment on dit ça en français, qui font la navette, qui vont la navette, les navetteurs.
Les navetteurs.
Les navetteurs, voilà, les navetteurs. je crois qu'ils font bien réfléchir à ce mouvement. Il y a effectivement peut-être la pénurie de logements ou des logements trop chers, mais en tout cas, on peut résoudre ça. Mais je crois que les étudiants, s'ils font la navette, ne perçoivent pas encore Bruxelles comme vraiment une ville d'étudiants. Et il y a beaucoup d'étudiants à la VUB qui, en fait, logent à Louvain, Leuven, parce qu'ils trouvent que Leuven, c'est une ville étudiante. Et effectivement, ici, la superficie est bien effectivement beaucoup plus grande, mais je crois qu'il faut aussi faire un effort sur le positionnement de Bruxelles comme ville étudiante, qu'il faut créer un vibe d'étudiants. Effectivement, la mobilité peut y ajouter quand on sort le soir, mais beaucoup de choses se passent en ville. Nous, on est deux universités qui sont un peu quand même en périphérie, en deuxième zone. C'est très chouette, nos campus sont super, et les étudiants l'acquiescent, ils sont vraiment très d'accord. Mais beaucoup de choses et la richesse de la ville se passent aussi au centre, et je crois que là aussi, on a un effort à faire des deux universités d'aller dans le centre, de se positionner là davantage pour aussi faire profiter les étudiants de la richesse de la ville. En tout cas, pour nos étudiants à la VUB, Bruxelles, ville, centre, est un peu une inconnue. Soit ils restent au campus de la VUB, et soit effectivement, ils font la navette. Et quand on fait l'effort de les emmener en ville, c'est ce que je fais systématiquement depuis 5 ans pour mes propres cours, j'emmène les étudiants en ville. On a la chance d'être associé à une haute école dont je peux disposer des auditoires. Et au départ, les étudiants ne veulent pas quitter le campus. Donc il faut les ramener en ville et après, ils ne veulent plus quitter le centre. Donc après, il y a le problème qui se pose de l'autre côté, il faut les ramener au campus. Mais c'est quand même des choses auxquelles il faut réfléchir. Et je crois que nos deux universités, si elles peuvent être ou s'ils peuvent développer aussi des activités au centre par différents moyens, mais aussi d'avoir ce positionnement de la ville en tant que centre étudiant, ça peut changer. Le pop-up. on va faire un pop-up.
Vous voulez faire quoi?
Oui.
Qu'est-ce que vous voulez faire?
On veut un bâtiment ensemble dans le centre de Bruxelles.
Voilà. Où ça? Sous le piétonnier?
Par exemple.
Il y a quelque chose qui se libère.
Vous avez en vue un bâtiment précis ou bien?
Oui. Non, mais c'est réel. Donc, mais c'est pour la haute école, l'Erasmus Hogeschool. Il y a le bâtiment d'Actiris qui va se libérer
à la bourse, oui.
Et qui est à la bourse et qui est au plein centre du piétonnier. Et
ça fera donc, plaisir à M. Maillot.
Non, mais donc la Erasmus Hogeschool, elle essaye de regrouper tous ces sites au centre-ville. elle l'a déjà fait. Il n'y en a plus que quelques-uns qui restent un peu en périphérie du centre. Et donc, on voudrait essayer de voir comment on puisse regrouper tout ça. Et avec une bonne collaboration, ça doit permettre aux étudiants des universités de passer aussi par là, comme le dit le recteur Pauwels. Mais ce que je voulais dire, Madame Lamquin, c'est que... il y a une bonne évolution qui a eu lieu les dernières années. Ça fait déjà un petit temps que je suis au gouvernement bruxellois et au début, je constatais que le contact entre l'autorité régionale et les universités était quasiment inexistant. Pourquoi ? Pour des raisons institutionnelles belges. Les universités sont des institutions communautaires qui dépendent des gouvernements communautaires. Et donc, ils étaient dans leur coin, ils s'occupaient de l'enseignement supérieur, de l'enseignement universitaire, mais le contact avec l'autorité régionale était quasiment inexistant. Et depuis maintenant, cette législature, aussi déjà en fin de la législature précédente, les contacts deviennent de plus en plus nombreux. Et pour que ces contacts soient bien et nombreux, il faut un projet fédérateur, il faut quelque chose où on se retrouve et on se rassemble et on parle. Les casernes, mais on en parlera tout de suite, c'est un de ces projets fédérateurs où on se dit, et une deuxième évolution qui permet plus aisément le contact avec l'autorité régionale, c'est le développement d'activités communes entre l'ULB et la VUB. Ce qui se produit depuis maintenant quelques années, de plus en plus, d'une façon de plus en plus intense, ce qui permet aussi d'avoir un contact plus aisé avec l'autorité régionale. Et donc... se positionner avec les deux universités comme l'University of Brussels, ça c'est génial. Il faut connaître la valeur de la dénomination Brussels dans le monde. C'est quelque chose de très fort. En plus, ça donne un cachet à la diversité qui est la nôtre, aux deux cultures qui se confondent, aux langues qui se mélangent. C'est ça qu'il nous faut.
Vous partez, j'imagine, tous les deux dans la mission royale au Japon. Vous allez vous définir comme la University of Brussels, tous les deux ?
Écoutez, je pense qu'il y a aujourd'hui une réalité institutionnelle et une histoire commune et individualisée. Je pense que, très clairement, l'évolution devant laquelle on est, les enjeux internationaux et les enjeux régionaux font que le rapprochement des universités de nos deux universités vont... s'accélérer.
Est-ce que l'un de vous deux souhaiterait répondre à la question de M. Anglaire sur l'accueil des étudiants internationaux ?
Là aussi, les casernes vont avoir un enjeu.
C'est du teasing permanent pour eux.
Oui, c'est un site immense. Hein.
C'est pas faux.
C'est un site immense qui devrait permettre de donner un cachet à cet accueil des internationaux qui viennent à l'ULB ou à la VB.
Avant d'y arriver, je vais peut-être revenir sur ce que Mme Pauwels disait, la nécessité de peut-être amener les étudiants en ville, quitte à ce qu'après ils ne veulent plus quitter le centre-ville.
Oui.
C'est quelque chose que vous souhaitez encourager aussi ?
Oui, wow. C'est vrai que le quartier de l'université a changé entre aujourd'hui et le moment où je le fréquentais, parce qu'à l'époque où j'étais étudiant, on ne ressentait pas vraiment le besoin d'aller dans le centre-ville, on avait tout sur place. Hein, entre le campus, entre les deux campus, entre le Solbosch et la Plaine, il y avait de quoi s'occuper. Ouais, non, chez moi, non, je trouve pas moi. Enfin bon.
Vous écrirez vos souvenirs après.
Ouais, non, mais c'est pour dire que aller dans le centre-ville, on y allait quand il y avait une activité folklorique quoi, où il fallait faire quelques petits trucs dans le centre-ville. Mais je n'ai pas, en tant qu'étudiant, en tout cas, moi, mais effectivement, je crois qu'aujourd'hui, il y a d'autres enjeux de la ville qui font que le centre-ville mérite aussi une attention particulière. Parce que le centre-ville a changé. C'est ça, la différence. Le centre-ville a changé, et donc, ça n'est plus ce centre-ville petite bourgeoisie, classe moyenne. Et tout le bâti a profondément changé. Ce qui veut dire que l'attractivité du centre-ville n'est plus la même. Aujourd'hui, le centre-ville propose incontestablement des activités compatibles, enfin, jeunes, que ce soit Saint-Géry, mais tous ces quartiers-là sont des quartiers qui vivent. Et donc, amener les étudiants là, pas pour faire la fête, hein, mais je dirais pour amener une vie dans ces quartiers-là est sans doute un enjeu important. Ça, j'en suis convaincu.
Monsieur Maury, vous souhaitiez intervenir ?
Il y a un sujet d'actualité qui revient souvent ces derniers temps, c'est bien évidemment le Minerval pour les étudiants étrangers qui, de ce côté-là, augmente 15 fois dans les frais complémentaires, ce qui le fait passer de 835 à 4000 euros. Et donc, bien évidemment, ce n'est pas pour tous les pays. Certains sont exclus et immunisés, entre guillemets. Mais donc, c'est aussi un peu paradoxal d'entendre qu'il y a des discussions envers l'accueil d'étudiants venant de l'étranger, mais d'un autre côté, augmenter justement ce Minerval. Voilà.
Même si aucune personne autour de la table ici n'est directement responsable de l'augmentation du Minerval.
C'était un message pour le CREF.
Pour Twitter. Est-ce que ce n'est pas le moment de parler des casernes, messieurs, dames, les recteurs, rectrices?
Alors, bon, Caroline dit que c'est moi qui commence, alors je commence. Donc, le site des casernes que nous avons visité récemment ensemble, puisque vous savez que c'était encore un site sécurisé de la gendarmerie, donc il a fallu obtenir des autorisations qui ont pris quelques mois, mais que...
On est en niveau 3, monsieur Anglais.
Voilà. La sécurité, n'est-ce pas? Donc, c'est un site tout à fait extraordinaire. Et ça, je pense que même si ça fait des mois qu'on discute, le fait d'y avoir été, d'avoir visité le site, change de manière radicale la perception. C'est un volume absolument magnifique. Les bâtiments sont d'ailleurs en bien meilleur état que l'idée que personnellement je pensais que j'allais y trouver. Mais surtout, il y a des volumes, il y a des espaces extérieurs. Et donc, je suis très, très convaincu que non seulement c'est une opportunité magnifique pour les deux universités, pour Bruxelles-Ville Internationale, puisque l'idée est d'y développer une série d'activités qui permettent d'une part d'améliorer le logement, d'autre part d'avoir une cité internationale, d'avoir un incubateur pour encore nous donner des possibilités de développement. Mais en plus de ça, il y a là un volume qui appelle un projet urbanistique et culturel très fort pour en faire un lieu d'attraction de Bruxelles, qui devrait idéalement être un lieu d'attraction associé à son caractère universitaire, mais qui soit un lieu d'attraction en soi. Et donc je pense vraiment que, et ça c'est vraiment le fait d'avoir vu le site qui le permet, il y a une potentialité extraordinaire, et il n'y a pas beaucoup probablement d'endroits dans la région où il reste des espaces avec cette qualité-là. Et donc, peut-être qu'un des messages, aussi bien vers le public que vers les mécènes, c'est que je crois qu'il faudrait absolument qu'on trouve les moyens d'avoir une ambition très élevée pour l'aménagement de ce site. Je ne remets pas du tout en cause sa destination de logement étudiant de cité internationale, mais il y a la place pour autre chose qui soit une marque de la région, un lieu d'attraction touristique et une originalité urbanistique forte.
Vous avez une idée plus précise en tête?
Oui, j'en ai quelques-unes.
Je vois ça. Mais... vous pouvez nous expliquer?
Non, je pense que c'est trop tôt. Elles ne sont pas mûres. Mais oui, bien sûr. Mais il y en a plusieurs.
Madame Poët va nous expliquer les siennes alors.
Je respecte le fait qu'on en a un petit secret. Je confirme, c'est un site tout à fait incroyable. Je crois que le fait que Bruxelles marche maintenant sur l'idée de la mixité, ce site vraiment invite à la mixité, non seulement entre les résidentiels et l'international et les étudiants. Il incite à beaucoup d'échanges qui seront probablement imprévus. Et je crois qu'effectivement, la ville a besoin de ça. L'ambition, je la trouve aussi concrétisée aujourd'hui avec l'arrivée de Beaubourg à Bruxelles. Et je crois que c'est dans ce sens-là qu'il faut aller. Si on vise l'international, il faudra y associer aussi des acteurs dans cette même lignée. Donc je suis aujourd'hui une Bruxelloise très contente parce que l'arrivée de Beaubourg, je crois que c'est la direction qu'il faut prendre parce que, à nouveau, je crois aussi que ce site invitera les étudiants à cette mixité aussi de mélange, d'échange entre culture, technologie, science, entre effectivement une population internationale qu'il faudra bien accueillir. Je crois que nos deux universités ont ce défi, ou Bruxelles même a ce défi. L'incubateur, on peut soit le concrétiser sur des domaines spécifiques ou justement le laisser à la sauvage un peu. Donc il faut visiter les sites pour en capter la richesse, le potentiel. Et c'est justement, c'est aussi un projet fédérateur et qui pourra aller au-delà. Donc je crois qu'il faut garder l'enthousiasme qu'on a eu en le visitant. Il y a une superbe salle de cinéma à l'intérieur qui me plaît beaucoup. Je suis dans le département de communication, mais je crois aussi pour les étudiants le potentiel est énorme, et donc je crois qu'ils vont être très contents là-bas, et j'espère qu'ils pourront être très vite contents là-bas.
Vous ne vous êtes pas trompé avec le projet des casernes? Non. Visiblement
non, mais pour vous dire, ça n'est pas simple, hein. Parce que,
il manque de moyens.
Comme on le dit ici, on pourrait se demander, mais allez, pourquoi, qu'est-ce que vous attendez? Pourquoi est-ce que vous n'êtes déjà pas avec la pelle et la grue en train de travailler à cela? Le site des casernes est une propriété fédérale. L'enseignement universitaire est une compétence communautaire. Et donc, qui va acquérir maintenant ce site? La région bruxelloise. Donc c'est déjà tout un effort de notre part, de la région, du contribuable régional bruxellois, de s'investir dans quelque chose qui est au fond de compétences communautaires. Du côté de régional, au fond, nous pallions à un manque de dynamisme, de volonté, de mise à moyen des communautés qui devraient s'investir là-dedans. C'est de leur responsabilité. Nous le faisons d'ailleurs aussi dans l'enseignement primaire, secondaire et ainsi de suite.
Message au ministre concerné.
Oui. Et donc, mais nous avons la volonté de le faire. Et on s'est mis d'accord au sein du gouvernement. On va dégager les moyens et on va s'y mettre. Et rien que ça, c'est une discussion qui prend quelques années, hein. Je dois vous dire, je me fais aussi encore un peu de soucis, je ne sais pas si c'est...
Monsieur Vorvort aussi, vous vous faites encore des soucis?
Oui, parce que le fédéral a toujours la clé. Et le ministre fédéral qui a la clé, je le dis en tout mot, n'est pas un grand supporter du fait bruxellois, hein, de la
c'est
communauté
le
bruxelloise.
De
C'est quelqu'un avec lequel j'ai encore eu un petit débat corsé il y a quelques jours, qui ne comprend pas tout ça. Hein, il comprend, mais il est contre. Il dit franchement, ce rapprochement entre les communautés, il m'a reproché qu'on voulait faire la communauté bruxelloise. Je lui ai dit, mais mon cher, ça existe. Hein, on ne la crée pas, elle existe. Hein, et donc... encore des craintes qui est.
Vous pensez que le projet pourrait ne pas se faire?
Non, si on devra le faire, on le fera. Mais on sent qu'il y a que ceux qui aiment freiner freinent. Hein.
Monsieur Vorvaux?
Non, il se fera.
C'est comme le musée Citroën, ça se fera.
Non, mais là, on avait tout de suite.
Avec ou sans Sleurs.
Oui, avec ou sans Sleurs. On a eu rapidement les clés en main. Je veux dire que pour nous, et c'est un des grands enseignements. Que nous tirons, c'est que d'une certaine manière, la maîtrise du foncier c'est l'alpha et l'oméga de la capacité à définir le menu et le programme. Et donc, pour ce qui est des casernes, le montant est ainsi un accord pour l'acquérir avec le montant qui est défini dans le dernier avenant Belliris que nous avons signé avec le fédéral. Moi, j'ai encore rencontré Jean Bon récemment, mais c'était après que tu l'aies vu, mais enfin, il avait l'air quand même...
Calmé.
Et donc, ça avait l'air de poser aucun problème, mais bon, on voit bien, et ça c'est le jeu malheureusement, mais la NVA est un parti qui aujourd'hui connaît quelques soubresauts, donc...
Vous n'êtes pas tout à fait rassurant pour les deux recteurs.
Non, pas du tout. Non, mais moi je suis comme ça. Moi je suis, tant que je n'ai pas à poser la signature sur l'acte, bon, mais ici je suis plutôt, enfin, raisonnablement optimiste pour les casernes, oui. Sur d'autres projets, je commence à m'inquiéter. Mais celui-là, je pense que ça rentre aussi dans des considérations budgétaires du fédéral. Et donc, je pense qu'il n'y a pas de crainte à avoir.
Et vous avez les moyens pour développer les casernes si le fédéral vous donne les clés?
Ben, on a déjà les moyens pour l'acquérir. Après, c'est le programme et c'est tout l'enjeu économique. Donc, c'est du caractère... Nous devons viser, nous, au travers de tous ces quartiers, de tous ces programmes, une forme d'équilibre économique qui garantisse que la société d'aménagement urbain, qui est propriétaire en réalité des sites, ne soit pas à un moment donné consolidée dans la dette régionale. Ça, c'est tout l'enjeu. Ça, c'est technique, mais c'est très important. Il faut qu'elle ait sa propre indépendance financière pour pouvoir développer les programmes. C'est le défi qui nous est posé à Reyers avec la Cité des Médias. Il y aura aussi de l'enseignement supérieur. C'est le défi qui nous est posé à Josaphat, à Gare de l'Ouest, enfin, voilà, dans tous les quartiers. Donc là, nous avons une réflexion, évidemment, qui intègre la dimension économique, mais avec des objectifs clairs, notamment en termes d'offres de logement, à prix conventionné, social assimilé. Donc, de ce point de vue-là, on a, je crois, de quoi effectivement réaliser de grandes choses sur le site.
Mais Monsieur Angler évoquait l'idée qu'il y ait des mécènes qui doivent contribuer, c'est une piste?
Mais je sais à quoi il fait allusion, donc enfin la partie...
Vous faites allusion à quoi, monsieur Anglais?
Non, mais ça ne le dira pas, mais les parties du site...
Vous avez beaucoup de secrets, monsieur Anglais,
non,
ce
pas
soir.
Du tout. Non, mais les parties du site intéressantes qui ont marqué la visite des deux recteurs, effectivement, notamment la salle, mais il y a d'autres choses, recèlent un potentiel qui va au-delà de simplement dire on va faire du logement étudiant, du logement conventionné et une cité internationale. Mais c'est vrai, ceci dit, vous avez, là où je rejoins Yvon Angler c'est que, et les recteurs, c'est que Bruxelles a besoin de vitrine internationale. Bruxelles, c'est une marque internationalement connue, pas toujours pour de bonnes raisons, mais qui a un pouvoir d'attractivité que nous ne mesurons pas toujours, nous, Bruxellois. Et moi, je l'ai mesuré au travers des discussions que j'ai eues avec les responsables de Pompidou. C'est qu'à pieds joints, ils sont arrivés en disant bah, « Pour eux, Bruxelles, bah, oui, capitale de l'Europe. Bah, » bon, alors qu'on aurait pu croire les Français, disant bah, « Quoi vous... » Donc, sur cette dimension-là, je pense qu'on a un potentiel qui reste largement inexploité. Et on le disait, la vitrine ville étudiante, nous devons aussi travailler en termes d'image pour intégrer cette dimension-là. Et je terminerai par... Guy l'a dit, mais je pense que ça va dans le sens de l'histoire institutionnelle en Belgique. Bon, je suis profondément régionaliste, mais je suis convaincu que sur ces aspects-là, nous ne pourrons compter que sur nous-mêmes demain. Les communautés feront le service minimum, on va dire ça comme ça. Et déjà, si elles le font, on pourra s'estimer heureux. Mais pour tout ce qu'il y a autour et alentour, tout le plus qu'on peut apporter, ce que Bruxelles peut apporter, c'est la région qui devra, à un moment donné, le prendre en charge. On évoque le musée. Ben, le musée, c'est de la culture, c'est des communautés. A priori, c'était pas... Bon, là, dans la sixième de réforme de l'État, on a juste rajouté...
Vous avez triché.
Non, on a dit les institutions biculturelles. Nous sommes compétents maintenant. On y avait pensé. Le tourisme, c'est la même chose. On l'a inscrit aussi dans la... Comme quoi, une réforme de l'État, ça peut quand même avoir des aspects intéressants. Ce qui nous permet de prendre en charge l'image, la culture. On travaille sur l'enseignement. Parce que il faut valoriser ce potentiel. Parce que ça, ce potentiel est des retombées pour toute la région. Et ça, c'est territorialisé. Les retombées économiques, les retombées en matière d'emploi, tout ça, ça compte. On parlait de difficultés de maintien de classe moyenne, mais c'est aussi un enjeu au travers de projets de ce type-là, c'est aussi de maintenir le personnel qui travaille autour et alentour des universités, des académies, que ce soit Anderlecht ou ailleurs, parce que c'est maintenir aussi des contribuables, ça t'intéresse quand même un peu. Et donc, non mais c'est vrai, je pense que c'est une vision globale que nous devons avoir de l'avenir de notre région, parce que demain, on ne sait pas de quoi demain sera fait dans ce pays, mais il faut qu'on ait la capacité à un moment de pouvoir répondre si d'aventure les choses se déroulent. Difficilement, on va dire ça comme ça, que Bruxelles soit en capacité, au travers notamment de ses administrations fiscales et tout ça, de pouvoir répondre à ces défis. Et donc, voilà la réponse, le pourquoi aujourd'hui on fait des choses qu'on ne faisait pas avant, région et université.
Monsieur Maurice, ça vous parle, le projet des casernes? Vous avez déjà visité le site?
Alors, par rapport à ça, bien évidemment, on a amorcé une réflexion commune sur le logement étudiant à Bruxelles avec nos homologues néerlandophones de la VVS. Et donc, sur ce point-là, on continue maintenant la collaboration depuis plusieurs mois pour justement amorcer et continuer et arriver à une réflexion aboutie pour l'avenir du logement étudiant sur Bruxelles. Et tant avec les structures locales sur chaque établissement représentant les étudiants, l'on attendra en tout cas d'analyser plus profondément le projet quand il nous sera présenté.
Ça fait à peine un mois qu'il est président. La langue de bois, il connaît déjà.
Je n'osais pas le dire.
Mais donc, plus particulièrement, il y a quand même quelque chose qui m'interpelle, c'est Bruxelles vitrine à l'international. On parle fort des universités, mais quelle est la place des hautes écoles et des écoles supérieures des arts, en fait, dans cette vitrine justement, qui est abordé ici. Moi, je pense qu'il y a des écoles supérieures des arts sur Bruxelles qui ont une renommée assez grande, par exemple les ZAC et ainsi de suite. Et donc, quelle est la place que vous voyez, en fait?
Là aussi, pour le conservatoire, par exemple. On est de nouveau dans le même sujet. Ce sont des mécènes, c'est l'autorité régionale, c'est en partie
le fédéral doit un peu aider aussi.
Oui, tout fédéral par le biais des moyens qui reviennent à Bruxelles, hein, en principe.
Communauté.
Oui, et donc là aussi, ça a pris beaucoup de temps pour qu'on mette sur pied la rénovation correcte.
Mais la question de Monsieur Maury était plus large que juste le conservatoire.
Oui, tout à fait.
Est-ce que l'un de vous deux voudrait lui répondre?
Spécifiquement sur les écoles d'art, j'ai pas été interpellé. Manifestement, vous l'avez été parce que vous revenez souvent avec le sujet. En tout cas, au niveau de tous les instituts liés à l'audiovisuel, mais c'est aussi de l'art. Là, il y a un projet qui existe, qui est celui de la Cité des médias à Reyers, et donc on vise évidemment à regrouper l'ensemble de l'offre d'enseignement bruxellois dédié à ces métiers-là, sur le site de Reyers, puisque comme vous le savez, on est sur un site, je pense, de 45 hectares environ, qui va pouvoir aussi permettre, avec l'emprise qui va fortement diminuer, l'emprise des deux VRT et RTBF, on va libérer de l'espace, et il y aura donc espace vert, logement, équipement, et les écoles supérieur, tout l'enseignement supérieur bruxellois sera rassemblé là. Et en fait, je réfléchissais géographiquement, donc on regarde bien les choses, on est dans un continuum vers les deux campus ULB-VUB, parce que c'est la même ligne de tram en fait qui continue tout droit. Vous voyez, hein?
Oui, bien sûr. La ligne 7 et la ligne 25.
Exactement, et c'était le 23 de mon temps. Oui.
Et, là, je n'ai pas connu, monsieur.
Non, mais... quelle cruauté.
Oui.
Et donc... là aussi, c'est un potentiel sur ce quartier qui s'urbanise aussi. Le viaduc a disparu, c'est un boulevard urbain. Bon, on a encore quelques tunnels pour quelques décennies pour assurer tout le monde. Et donc, je crois qu'il y a aussi un potentiel. Sur l'art, ça m'intéresserait que vous me disiez quelle est la préoccupation. Est-ce que c'est une préoccupation liée à une interpellation aux communautés? Est-ce que là, il y a un déficit qualitatif? Mais peut-être qu'ils vont, peut-être, je vois qu'ils...
Donc... Je pense qu'aujourd'hui, pour les universités, les autres structures d'enseignement supérieur sont et vont devenir de plus en plus des partenaires. Et donc, je pense qu'il faut voir la mise en réseau de nos institutions. Et il y a un certain nombre de projets concrets. On a parlé de la plateforme de logement étudiant, la PLE que le pôle a développée. Elle est entièrement mutualisée entre les hautes écoles et les universités. On vient de signer un accord qui ouvre l'ensemble de nos bibliothèques à l'ensemble des structures d'enseignement supérieur. Vous savez que les écoles supérieures des arts et les hautes écoles ont beaucoup moins de facilité, ont beaucoup moins d'accès aux bibliothèques et à ces structures de support à l'enseignement, au Learning Center en général. Et donc, on vient de prendre un accord entre toutes les institutions pour que tous les étudiants et tous les enseignants aient un accès libre à l'ensemble de ces structures. Et bien entendu, on développe des enseignements en commun. Nous allons accueillir deux institutions d'enseignement supérieur liées à des ingénieurs techniciens liés à l'école polytechnique sur un bâtiment commun à la Plaine, d'ailleurs en coopération avec la VUB pour le domaine de l'informatique. Donc il y a une mise en réseau et je pense que l'avenir est beaucoup plus à voir l'ensemble de ce tissu de formation, puisqu'on ne l'a peut-être pas encore dit, mais c'est quand même aussi une forte garantie d'emploi d'avoir un diplôme d'enseignement supérieur. Les Bruxellois, il y a 45% qui ont un diplôme d'enseignement supérieur, mais ça ne monte plus. Donc là, il y a aussi un endroit où les universités, les écoles supérieures et la région, on a des choses à faire pour relancer l'augmentation des diplômes, mais je pense que de plus en plus, nous voyons l'ensemble, cette offre, comme devant se coordonner et pas cloisonner d'un côté les universités, de l'autre côté les hautes écoles, de l'autre côté les écoles des arts et la formation permanente, mais plutôt comme une offre combinée et à la cité des métiers, ou peut-être que c'est plutôt à la région de porter son projet. Les écoles supérieures seront ensemble pour présenter l'offre d'enseignement à la jeunesse bruxelloise.
Madame Poel, je vous vois approuver.
Oui, je crois que c'est important de faire passer un message aux étudiants que, de toute façon, on a ouvert aussi l'année académique sous l'idée de la co-création et le sharing, donc, qui rentre tout à fait dans en fait, l'économie de la connaissance. Aujourd'hui, je crois qu'il n'y a plus personne qui réclame un monopole sur ni la connaissance ni la création. Et on a étudié aussi beaucoup de développement urbain à l'étranger où justement ce site qui est les casernes peut s'y prêter. Et là où il y a toujours ces échanges, on travaille effectivement en réseau, en plateforme, en co-création. Il n'y a plus de... Ben nous, on a ouvert l'académique sous le thème de « Break down the walls ». C'est ce que je crois que le site des casernes nécessite. Si on dit qu'on travaille aussi sur le rapprochement des sciences, la technologie et l'art, voilà, c'est à nouveau aussi impliquer les écoles, les étudiants. C'est aussi croire à la connaissance et la création qu'apportent les étudiants aussi. Donc, il n'y a plus ce modèle top-down, mais aussi beaucoup plus en partage et en réseau, effectivement.
Vous venez d'écouter un débat qui a rassemblé différentes personnalités bruxelloises sur le thème « Bruxelles, quelle capitale étudiante ?». Le débat a été enregistré le 29 septembre au Studio 4 à Flagey.
Tu crois que la bande de Gaza est un groupe de rock ?
Tu crois que la chute des bourses est un nouveau film porno ?
Tu crois que Paul Magnette se colle sur ton frigo ? Pour tout savoir, 92.1
Radio Campus.